le magazine des Nations Unies.
Représentants des pays membres du Conseil de sécurité en visite en RDC la semaine dernière. La délégation onusienne a eu des entretiens avec les autorités congolaises avant de se rendre à Beni, au Nord Kivu. Nous serons également à Goma où une explosion d'engin artisanal a fait 32 blessés parmi les casques bleus indiens. Les détails, c'est dans cette édition. Enfin, le cancer du sein et le ver de Guinée. L'OMS préconise un dépistage systématique parmi les mesures préventives contre la première maladie en RDC et veut être assuré de l'existence ou non de la deuxième. Pour en parler, Maguen reçoit ce dimanche deux médecins de cette agence de l'ONU dans ses rubriques décryptage et invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du UN Mag. Tout d'abord, le séjour de 4 jours en RDC des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La délégation s'est entretenue avec les autorités du pays à Kinshasa et s'est ensuite rendue à Beni via Goma au Nord Kivu. Alors, Maguen revient avec détails sur cette visite en sa prochaine édition. Et puis, l'actualité de cette semaine a aussi été marquée par l'explosion qui s'est produite mardi dernier à Goma au Nord Kivu. Explosion qui a fait des blessés parmi les casques bleus. Le sujet a été évoqué lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Le colonel Pierre Huet, chargé des opérations de la force de la MONUSCO, donne ici des précisions sur la cause de l'incident, le bilan, mais également les enquêtes en cours.
Je peux vous confirmer ici, ce matin, que c'est bien un engin explosif artisanal, okay, qui a été utilisé pour causer la blessure de 32 soldats qui sont maintenant à l'hôpital à Goma, dont 14 au niveau 3 et 18 au niveau 1. Nous avons les évidences qu'un engin explosif artisanal initié par un fil électrique a été utilisé, et c'était un engin explosif artisanal et non une grenade. Donc, nous avons fait une enquête préliminaire hier avec les experts en explosion sur le site, et maintenant, aujourd'hui, une autre équipe du côté forensique, des spécialistes de Kinshasa, congolais, qui sont maintenant sur les lieux et qui enquêtent d'une façon conjointe.
Il est complété par Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Nous avons aussi été mis au courant de beaucoup de rumeurs qui circulent autour de cet incident-là, mais je pense que comme le colonel Pierre Huet l'a si bien décrit, les choses se sont passées d'une certaine façon. Une équipe d'investigation pluridisciplinaire a été déployée sur le terrain. Des renforts ont été déployés à partir de Kinshasa, aussi bien par le gouvernement congolais que par la MONUSCO. En fait, ce sont des experts qui vont se rendre sur les lieux de l'incident pour déterminer avec précision quelles sont les circonstances dans lesquelles cet incident a eu lieu.
Voilà, ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Lally Coco. Il faut noter aussi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, est arrivé mercredi dans la matinée à Goma. Maman Sambo Sidikou était donc accompagné du commandant de la force, mais également de l'ambassadeur de l'Inde en RDC, Ashok Warrior. De l'aéroport, ils se sont rendus directement à l'hôpital niveau 3 de la MONUSCO, où ils ont visité les casques bleus indiens et les civils blessés mardi suite à cette explosion. Autre actualité, 7 millions de dollars du fonds humanitaire, c'est en tout cas le montant que la coordination humanitaire vient d'allouer aux personnes affectées par les conflits communautaires entre les Twa et les Luba. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Jean-Pierre Lally Coco revient sur d'autres détails concernant cette aide humanitaire.
Le communiqué du Bureau de coordination des affaires humanitaires, daté du 9 novembre, indique que cette aide est destinée à répondre aux besoins humanitaires de plus de 75 000 personnes affectées par les conflits communautaires à Nyunzu dans la province du Tanganyika. D'après le communiqué, cette allocation de 7 millions de dollars financera le projet des 4 organisations non gouvernementales internationales et 3 ONG nationales dans les secteurs tels que la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la protection et l'éducation, en tenant compte bien entendu des besoins communautaires. La crise humanitaire de Nyunzu a des racines socio-économiques profondes dont nous devons en gérer les conséquences humanitaires. Cette allocation vise à répondre aux besoins essentiels de milliers de personnes, a déclaré Dr Mamadou Diallo, coordonnateur humanitaire en RDC, avant d'ajouter qu'au-delà de cette enveloppe, le souhait de la communauté humanitaire est de voir une implication plus active des acteurs pour apporter des solutions durables. Enfin, Otia note que les tensions anciennes entre ces deux communautés Louba et Pygmé, dont les dernières manifestations ont commencé en 2013, sont liées à de multiples facteurs. Parmi ces facteurs, l'accès à la terre et aux ressources économiques.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, plaide pour la constitution en RDC d'un registre national du cancer pour que le pays dispose notamment d'une cartographie du cancer du sein qui fait des ravages en Afrique. Et on appelle également un mécanisme d'un dépistage systématique de cette maladie pour les femmes à partir d'un certain âge. Honoré Missenga Kalala a reçu pour vous Dr Adolphe Kongolo du bureau de l'OMS en RDC sur cette problématique. Suivez plutôt leur entretien.
Docteur Adolphe Nkongolo, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme africaine. Quel est l'état des lieux en République démocratique du Congo?
Malheureusement, en République démocratique du Congo, la situation du cancer du sein n'est pas connue.
Pourquoi?
Parce que nous n'avons pas encore un registre national de cancer. Et les efforts sont en train d'être faits par le gouvernement avec, bien sûr, l'appui de l'OMS et des autres partenaires pour qu'on dispose au moins d'un registre national de cancer qui nous permettra d'avoir la situation du cancer dans le pays.
Mais au moins, il y a des femmes qui souffrent de cette maladie.
Certainement et beaucoup. L'OMS a appuyé une petite récolte des données dans 25 hôpitaux. On s'est rendu compte que la situation est dramatique.
Docteur, parlons un peu de la maladie elle-même. Quels sont les signes cliniques d'un cancer du sein?
Le premier signe, c'est d'abord une tumeur, une boule. C'est une masse que la dame ou le clinicien va constater dans le sein d'une femme. Il peut aussi voir des ganglions qui sont au niveau de l'aisselle. Après, cette boule peut évoluer. On peut avoir certains signes au niveau de la peau, même une ulcération, même le mamelon qui peut se rétracter. On peut avoir même un peu d'écoulement. Donc ça, ce sont des signes qui peuvent déjà faire penser à un cancer, mais quand ça évolue, on peut avoir des signes même généraux, tels que des nausées, des vomissements, des pertes de poids, des jaunisses. Là, c'est quand ça devient très très compliqué.
Donc, toute boule dans le sein d'une femme est un signe d'un cancer?
Je ne dis pas signe d'un cancer, mais ça doit faire penser, ça doit pousser la femme à vite consulter, très vite consulter.
Le cancer du sein n'attaque que les femmes?
Non, vous savez que les hommes aussi ont des seins. Les études ont démontré qu'il y a moins d'1% de cancer de sein qui attaque aussi l'homme, puisque le sein de l'homme n'est pas développé. Mais sachez que les hommes peuvent aussi faire un cancer de sein.
Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer de sein?
Il y a plusieurs facteurs de risque. Bon, il y a des facteurs hormonaux. C'est par exemple quand une femme est exposée longtemps aux œstrogènes, des hormones internes qui sont sécrétées par les femmes. Par exemple, si une femme a une puberté précoce, donc c'est-à-dire que l'exposition commence plus tôt, ou encore une femme a une ménopause tardive, c'est-à-dire qu'il y a une ménopause autour de 55 ans. Alors ça, c'est une longue exposition. Ou bien si un médecin prescrit des œstrogènes pendant longtemps, surtout chez les femmes qui ont des ménopauses, alors là, ce sont des facteurs hormonaux qui peuvent aussi conscient des risques. Il y a des facteurs liés à la reproduction, par exemple une maternité tardive, au-delà de 35 ans, et surtout pour les femmes qui ne veulent pas allaiter leur enfant. Tu accouches, mais tu refuses d'allaiter l'enfant. Vous savez, l'allaitement est un facteur protecteur contre les cancers du sein. Ce qui fait qu'une femme qui allait le plus longtemps possible se protège elle-même contre le cancer du sein. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, démographiques. Par exemple, s'il y a un antécédent de cancer du sein dans la famille. Alors, si vous savez que dans votre famille, il y a une femme qui a fait un cancer du sein, vraiment faites, faites très attention. Par exemple, les facteurs environnementaux. Il faut que les femmes qui ont moins de 40 ans évitent le plus possible les radiations ionisantes. Par exemple, les radiologies, des choses comme ça. Il y a des produits aussi comme le biphénol A qui peuvent aussi être des facteurs favorisants. Et il y a aussi des facteurs liés aux habitudes, la vie, à la nutrition. Par exemple, l'obésité, la sédentarité, le manque d'exercice physique, la consommation excessive des graisses animales, l'alcool.
Le tabac aussi,
oui, le tabac. Pour ce qui est de l'âge, ce qu'il faut savoir que le risque devient plus grand avec l'âge. Par exemple, chez les femmes qui ont, par exemple, moins de 35 ans, ils ont environ 10% d'avoir des cancers du sein. Et près de 50 ans, autour de 20%, mais c'est beaucoup plus les femmes entre 50 et 69 ans qui ont le plus de chances d'avoir des cancers du sein, et après 69 ans, 28%. Ça, ce sont un peu les statistiques de manière générale. Donc, c'est pour dire que l'âge où on a plus de cancers du sein, c'est entre 50 et 69 ans.
Docteur, comment se passe alors le diagnostic du cancer du sein?
Bon, pour le diagnostic du cancer du sein, la première chose la plus importante, c'est la palpation, puisque j'ai dit que c'est une boule. Alors, c'est quand vous palpez, vous sentez qu'il y a une boule, là, il faut vraiment faire attention. Et maintenant, quand vous allez chez le médecin, il va vous demander une mammographie, il peut demander une échographie, il peut demander des examens plus approfondis comme l'IRM. Le médecin peut aussi faire une ponction pour aller regarder les cellules au niveau du microscope pour voir s'il y a des cellules cancéreuses. Là, il va maintenant vous dire que non, voilà, vous avez un cancer.
Comment se traite le cancer du sein, docteur?
Oh, le traitement du cancer du sein dépend beaucoup plus du stade de la tumeur. Plus le stade est avancé, et aussi on fait un bilan d'extension pour savoir s'il y a des métastases ou d'autres organes sont atteints, et c'est ça qui va déterminer le cancer. Si c'est encore un stade au début, il n'y a pas affection des ganglions autour, là on peut juste enlever la tumeur. Mais s'il y a quelques extensions, on peut enlever la masse et les ganglions, ou enlever carrément tout le sein. Il y a aussi d'autres traitements, il y a la radiothérapie, il y a l'hormonothérapie. Le choix du traitement dépendra beaucoup plus du bilan d'extension.
Tout ça, c'est coûteux.
Oui, c'est coûteux. Et il est important vraiment d'avoir un centre de cancérologie ici pour améliorer un peu tout ce traitement.
Docteur Adolphe Nkongolo, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Quelles recommandations faites-vous aux femmes dans le cadre des mesures préventives?
La première chose que nous recommandons toujours, c'est le dépistage. Il faut vraiment que les femmes elles-mêmes se fassent ce qu'on appelle une autopalpation.
Elles-mêmes, à la maison,
oui,
chaque jour, régulièrement.
Une autopalpation, c'est vraiment une bonne manière pour elles de se rendre compte si elles ont ou pas une masse au sein. Et elles peuvent consulter leur gynécologue qui peut leur montrer comment est-ce qu'elle peut se faire de manière simple afin qu'elle puisse se rendre compte régulièrement. Et à partir d'un certain âge, il est recommandé de faire des mammographies de manière systématique. Nous avons même écrit dans notre stratégie nationale de lutte contre les cancers du sein et du col de mettre en place un système systématique de dépistage et que ce soit pris en charge par les mutuelles. C'est mieux de prévenir que d'arriver avec une femme et de la traiter d'un cancer qui va être très cher, et la femme peut même en mourir et laisser les enfants. Mais si on fait un dépistage, on peut éviter toutes ces choses-là. Et comme je l'ai dit, les facteurs de risque environnementaux, ce sont des facteurs simples. Éviter l'alcool, éviter d'être sédentaire, c'est-à-dire les femmes doivent faire l'exercice physique, une alimentation équilibrée, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et ça, ce sont des petites choses simples. Dans beaucoup de pays, systématiquement, le dépistage commence à partir de 50 ans. Alors, en ce moment, tous les deux années, il faut que la femme passe pour qu'on fasse ces examens-là. Et nous, on a réfléchi, on s'est dit non. Chez nous, comme nous commençons, c'est mieux d'avancer un peu. Nous discutons entre 40 et 50 ans. Il faut qu'on commence déjà systématiquement à faire ces examens.
Docteur Adolphe Nkongolo, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Honoré.
En plus bref, la coordination nationale de la police judiciaire de la RDC, dotée d'un réseau informatique et d'un guide du policier enquêteur, des dotations réalisées grâce à un double appui technique et financier venu du MONUSCO. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, CNC, a donc réceptionné officiellement ces dotations le lundi 7 novembre dernier à Kinshasa. Et puis oui, 125 emplois temporaires créés dans la province du Sud-Ubangi dans le cadre d'un projet Impact Rapide pour la stabilisation et la réintégration en faveur des communautés. Un projet mis en œuvre encore par les PNUD et financé à hauteur de 3 millions de dollars américains par le Japon. Des bâtiments construits et réhabilités dans le cadre de ce projet ont été inaugurés le 5 novembre 2016.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La dracunculose, ou alors la maladie du ver de Guinée, existe-t-elle, oui ou non, en République démocratique du Congo? En tout cas, l'OMS tient en avoir le cœur net pour, au cas où la maladie existait, mettre donc un programme de sa prise en charge, ou dans le cas contraire, certifier le pays. C'est en tout cas ce que nous explique le docteur Augustin Kadima de l'OMS RDC dans cet entretien accordé toujours à Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Docteur Augustin Kadima, bonjour.
Bonjour, c'est Honoré.
$400, c'est le montant que l'OMS vient de mettre en jeu pour récompenser les personnes qui contribueraient dans la déclaration d'un cas confirmé de la maladie de ver de Guinée. En RDC d'abord, docteur, qu'est-ce que la maladie de ver de Guinée?
Cette maladie, comme son nom l'indique, c'est un ver. C'est un ver dont les origines étaient dans le golfe de Guinée, et c'est pourquoi il porte ce nom-là. Mais ce ver-là, c'est un ver plat, long, qui apparaît chez un individu.
Docteur, pourquoi l'OMS tient à être rassuré de la présence ou non de cette maladie en RDC?
Parce que s'il y a le ver, il y a la maladie, il faut une prise en charge et un programme de prise en charge. Mais quand on trouve qu'il n'y a pas la maladie, c'est pour que par après, on arrive à certifier l'absence de cette maladie dans le processus mondial de l'éradication de cette maladie.
Venons-en maintenant au système de récompense que vous avez mis en place. Ça va se passer comment concrètement cette récompense?
Oui, concrètement, il est demandé à toute la population de vouloir rechercher attentivement partout dans le pays s'il voit une personne avec ce ver qui sort de son corps, surtout essentiellement des membres inférieurs, un ver bien précis. Ils doivent l'amener au centre de santé le plus proche et là, l'infirmier va extraire ce ver-là avec une technique spécifique, parce que la plupart des infirmiers sont informés pour ça. Et après avoir prélevé ce ver-là, il le met dans un flacon, il l'envoie ici à Kinshasa à l'OMS. Nous, OMS, on va envoyer à Atlanta pour confirmer que c'est le ver de Guinée ou pas. Et quand c'est confirmé que c'est le ver de Guinée, on donne $100 au malade, $100 à la personne qui l'a amené ou bien l'informateur, $100 à l'infirmier qui a extrait et $100 au médecin chef de zone.
Est-ce que la maladie consiste en la présence du ver dont vous parlez ou alors il y a d'autres signes cliniques de cette maladie?
Oui, il faut coûte que coûte qu'on voie ce ver-là qui sort. Ce ver-là, c'est lui qui cause la maladie et quand il sort, il y a des signes. Il y a des fièvres qui peuvent apparaître, une forte douleur, une chaleur à l'endroit où il doit sortir, essentiellement vers les membres inférieurs.
Le pays est vaste. Quelles sont les stratégies que l'OMS a mises en place pour pouvoir atteindre tous les coins et les recoins de la République?
Oui, l'OMS est un grand partenaire du ministère de la Santé. L'OMS appuie le ministère de la Santé au travers de son programme national d'éradication de la dranquinculose qui s'appelle PNED. Et ce programme fonctionne en s'appuyant sur la structure de la santé. Ça veut dire les divisions provinciales, les zones de santé sont impliquées. Donc toute la pyramide sanitaire est impliquée et en dehors des recherches actives que le programme fait, nous impliquons aussi les autres programmes tels que le PEV, quand ils font des vaccinations de polio, et les autres programmes tels que la distribution des médicaments de masse pour contre l'oncocercose et contre toutes ces maladies. Tous ces programmes, quand ils font leurs activités, on les implique aussi pour contribuer à cette recherche.
Alors cette recherche concerne seulement la RDC ou bien c'est toute l'Afrique?
Non, ça nous amène à revenir un peu dans l'histoire où cette maladie dans les années 86 concernait 20 pays dont 17 en Afrique. Mais avec la lutte que l'OMS appuie avec tous les autres partenaires, il s'est fait que la maladie a beaucoup baissé et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 4 pays en Afrique qui sont le Tchad, le Mali, le Sud-Soudan et l'Éthiopie qui ont encore des cas. Et le reste des pays n'ont pas de cas. Il y a 2 pays tels que la RDC et l'Angola où, pour la RDC, il y a eu des cas à l'époque coloniale, dans les années 40 jusqu'à 50. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu des cas pour des raisons effectivement qu'on cherche à savoir. Est-ce que la maladie a disparu d'elle-même? Est-ce que effectivement la maladie existe mais on ne la notifie pas parce qu'il n'y a pas des archives à ces propos? C'est ainsi que, actuellement, cette recherche se fait ici en RDC pour arriver à cet objectif-là de certifier l'éradication. Et dans d'autres pays tels que l'Angola, on n'a jamais eu cette maladie-là, mais on demande à l'Angola de certifier. Mais d'autres pays qui ne sont pas concernés ne font pas cette recherche.
Oui, docteur, comment se présente finalement, d'une manière globale, cette maladie dans le monde actuellement?
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 4 pays d'Afrique qui ont des cas et des cas très limités. Pour toute l'année 2015, il n'y a eu que 22 cas, 9 au Tchad, 5 au Mali, 5 au Sud-Soudan et 3 en Éthiopie. Cette année, depuis janvier jusqu'en octobre, il n'y a que 21 malades, 13 au Tchad, 0 au Mali, 5 au Sud-Soudan et 3 en Éthiopie. C'est vraiment une maladie qui est sur le point d'être éradiquée C'est pour cela qu'on fait tous ces efforts ici.
Une maladie qui est sur le point d'être éradiquée, mais quelles sont les conséquences pour celui qui en souffre?
Oui. C'est une maladie très invalidante. Si vous avez l'occasion de voir les images, les enfants qui ont ces vers qui font des plaies ne vont pas à l'école. C'est une maladie invalidante qui a des conséquences économiques aussi et sociales.
Je reviens un peu au montant que le MS a mis en jeu, 400 $. Vous ne pensez pas que c'est un montant qui n'est pas très très motivant, 400 $ en raison de 100 $ par personne?
Non, c'est déjà beaucoup, et dans la suite, si c'est nécessaire, on pourra même augmenter ce montant, mais qu'on commence déjà avec ce montant-là.
Alors, vous avez un dernier mot par rapport à cette campagne? Il s'agit vraiment d'une campagne de l'OMS.
Oui. Il est très important. Nous avons besoin des médias. Tous les médias, tous les partenaires sont sollicités pour être impliqués afin que toute la population connaisse que cette maladie avait existé et contribue à chercher pour prouver que cette maladie n'existe pas dans ces pays, de manière scientifique. Parce que si, scientifiquement, on n'a pas prouvé, il est impossible de certifier. Il faudra que dans la suite, le pays fasse un rapport qui va se mettre à l'OMS et l'OMS va faire venir un comité qui va vérifier cela, et si ça se confirme, c'est à ce moment-là que le pays sera certifié. Nous sollicitons effectivement la contribution de toutes les autorités, aussi bien politico-administratives que sanitaires, pour être impliquées et rechercher dans tous les recoins si cette maladie existe, qu'on la connaisse et qu'on puisse la prendre en charge, et si elle n'existe pas, qu'on puisse certifier le pays.
Docteur Augustin Kaliba, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Académie dans le Tanganyika, réunion mercredi dernier au quartier général de la MONUSCO du groupe de lutte contre l'impunité des violences sexuelles. Objectif, étudier les voies et moyens pour mettre fin à ce fléau d'ici une année dans le Tanganyika. Y ont pris part le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, le commissaire général du gouvernement provincial chargé du genre, famille et enfants, et enfin la PNC, Police Nationale Congolaise, ainsi que les associations de protection des droits humains. C'est un reportage que nous propose Excedi Mwambamoubi.
Comme objectif, le commissaire général du gouvernement provincial chargé du genre, famille et enfants et ses partenaires se fixent une année pour mettre un terme à l'impunité des violences sexuelles. Madame Virginie Koulou.
On a traité des sujets très délicats. Il y a eu beaucoup de cas qui sont en cours et nous avons encouragé les acteurs de ces groupes de travail de suivre minutieusement les dossiers pour qu'on ait quand même des résultats que nous attendons.
En guise de contribution à la lutte contre l'impunité, le réseau des femmes du Tanganyika projette un mois de sensibilisation. Madame Albertine Kungwa, coordonnatrice du Réfétang.
Chaque structure avait présenté ce qu'il va faire au mois de novembre. Et nous, comme Réfétang, on a voulu bien faire la sensibilisation dans les villages environnants.
L'impunité est l'ennemi du vivre ensemble, dit pour sa part Georges Mbouyou, coordonnateur de la Voix des minorités indigènes.
Cette impunité ne peut pas encourager les gens de vivre en bon terme, en ambiance. Il y aura toujours des conflits qui persistent, il y aura toujours des remous dans la communauté.
Kalemi, Excedi Mwambamoubi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait au brouillage cette semaine de Radio Capi. Suivez plutôt les questions posées par un journaliste et bien évidemment la réponse de Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Théodore Gandou pour les comptes de Télé 7. Félix, je reviens sur le meeting du rassemblement le 5 novembre dernier, le meeting qui a été interdit par l'autorité provinciale. Et le public kinois, ces jours-là, n'a pas eu droit à l'information, notamment à travers Radio Capi, dont le signal a été brouillé. Quelles sont, selon la MONUSCO, les vraies raisons de ces brouillages de signal de Radio Capi?
Nous déplorons justement la suspension des émissions de Radio Capi suite à un brouillage. Mais je voudrais aussi préciser que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse officielle de la part des autorités concernant ce brouillage. Mais je le dis, c'est une situation qui est non seulement inquiétante, mais préoccupante, parce que ceci, et je le dis surtout au nom de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Mais une chose aussi est sûre, c'est que Radio Okapi n'appartient plus aux Nations Unies. C'est vrai que c'est une radio des Nations Unies. C'est vrai que la radio est mise en œuvre par des Congolais professionnels. Malheureusement, nous avons assisté à cette situation-là pendant le week-end. Nous rappelons tout simplement certaines dispositions qui sont fondamentales. C'est des dispositions qui sont ancrées dans toutes les constitutions. Il s'agit de la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de réunion, etc. Maintenant, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'explication officielle de la part du gouvernement. Mais je l'ai rappelé, la radio Okapi n'est plus la radio de la MONUSCO, c'est la radio des Congolais. Pensons un moment, pendant 24 heures, 1 heure, 48 heures, que le Congolais qui est là-bas au fond, dans le Rutshuru, qui est dans le Congo profond, ne puisse pas avoir droit à l'information. Je pense que ce sont des questions existentielles qu'il faudra que vous-même vous vous posez en tant que journaliste et que vous puissiez interpeller ceux qui bloquent justement l'expression plurielle, etc. Donc je pense que vous avez aussi un rôle à jouer dans ça, mais nous, nous disons tout simplement que ceci ne nous permet pas de continuer à entretenir et à maintenir le contact avec les autorités. Dans cette dynamique-là, depuis quelque temps, nous sommes en train de discuter avec les autorités qui ont aussi montré une forme d'ouverture et c'est pour cela que depuis hier, à partir de 22h, les émissions sont suivies. Vous pourrez tous en profiter et j'espère que l'inauguration aussi du studio de Béni contribuera justement à libérer un espace d'expression beaucoup plus pluriel ici en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour, Mbote, Jambo, Good morning, Betoabu, Ngara Mousse. Je m'appelle Mamichou Lusangi Fataki, mère de 5 beaux enfants. Je les appelle mes 5 étoiles. Je suis hôtelière de formation. En même temps, j'ai fait des études sur le marketing. À Radio Okapi, je suis assistante administrative, traductrice de nouvelles journal en Swahili. En plus de ça, je m'occupe aussi de l'accueil. Je suis à Radio Okapi depuis 2002, donc ça fait aujourd'hui 14 ans. Avant de venir à Radio Okapi, j'étais hôtesse d'accueil à l'hôtel Méridien au Burundi. J'étais hôtesse d'accueil au restaurant Acapulco au Burundi. Je travaillais comme hôtesse d'accueil aussi à l'hôtel résidence à Bukavu. J'ai été nommée après gouvernante toujours de cet hôtel. Et à part ça, je travaillais au bureau du CICR dans la même ville de Bukavu avant d'être engagée à la radio Agatasha. La radio Agatasha qui était la première radio de la Fondation Hirondelle. Agatasha, bien sûr, qui signifie aussi Hirondelle en Kinyarwanda. Quand je suis arrivée ici à Kinshasa, je travaillais pour le fils de feu Mobutu, donc son fils congolo, au restaurant des Kinmazières, comme hôtesse d'accueil, hôtesse serveuse. En fait, j'ai travaillé à plusieurs endroits, comme hôtesse d'accueil, hôtesse serveuse, comme caissière. Par exemple, quand je suis arrivée ici à la radio Okapi, je travaillais d'abord comme gouvernante dans la maison de tous les expatriés de la Fondation Hirondelle. Après 6 mois, on m'a sollicité de travailler à la radio Okapi comme réceptionniste. J'ai travaillé avec une collègue à moi que je salue en passant, Evelyne Kamango. Comment je gère mon temps? De lundi à vendredi, je travaille de 8h30 à 18h, deux fois même jusqu'à 20h. Donc pendant le temps libre, je suis très souvent en famille, avec les miens, à la maison. Je m'occupe de mes enfants, de ma maison, voilà. J'ai le temps quand même de visiter la famille et la famille a aussi le temps de venir me visiter quand je ne suis pas au service. Deux fois aussi, le week-end, j'ai le temps de sortir un peu, voir des amis comme Katia Kiangudi, Christine Kabuya, Aïcha la patronne, Alina Day, Madame Elodie Muzigirwa, qui est une amie très 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 proche à moi. Je suis très souvent sur WhatsApp avec ma famille qui est au Burundi. Je leur dis Muraho, Mwaramuse. Quel genre de musique j'aime? D'abord, je suis la fille d'un grand producteur. Mon défunt père, Jules Lusangi Fataki Chika Chika, fut le producteur de Lusanga Banganga et plusieurs musiciens congolais ici au Congo. Donc, j'aime beaucoup la musique congolaise, la rumba, les ndombolo. J'aime beaucoup danser aussi. J'aime aussi la musique caraïbienne, ainsi qu'américaine et africaine. Pour le sport, j'aime beaucoup le football. Bon, excusez-moi, hein, mais je suis pour l'équipe Tupusa Mazembe. Comme je suis ici à Kinshasa, voilà, je supporte aussi Vita Club. Ne soyez pas frustrés, hein. Mais c'est ça, c'est mon choix. À part le football, j'aime la natation, le basketball. Je suis une ancienne basketteuse à Kindu. Et puis, j'aime le rugby. J'aime manger le fondue et le riz accompagné de la viande de chèvre.
ça fait rire hein, quand on parle de la nourriture. Mais mon projet d'avenir, j'aimerais bien devenir une grande productrice de la musique congolaise, comme le faisait mon défunt papa. À part ça, j'aimerais bien avoir un grand restaurant à moi-même que je gérerais. Voilà, ça c'est parmi mes plus grands souhaits dans la vie. Voilà, tout pour moi. Et encore, j'ai dit bonjour aux auditeurs du magazine des Nations Unies. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Voilà, vous pouvez déjà prendre votre calepin, noter ces quelques rendez-vous que vous propose le magazine des Nations Unies. Alors, sachez que le 14 novembre, ce sera la journée mondiale du diabète. Le 19 novembre, la journée mondiale des toilettes. Et oui, ça existe. Et enfin, le 20 novembre, la journée mondiale des droits de l'enfant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette édition du magazine des Nations Unies qui a été coordonnée par Jean-Pierre Elali Ikoko, Honoré Missenga et Fedi Mambamoubi étaient au reportage, à la technique, Alain Goy, moi c'est Tina Salama, le plaisir était le mien, comme toujours, hein, de vous présenter ce magazine. Alors, bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix et excellente journée dominicale à vous tous. Ciao, ciao.